Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est ce qu'on appelle une personne avertie. Consciente des conséquences d'une éducation à la dure, elle a très vite souhaité se débarrasser des séquelles qu'elle engendre afin de rompre la chaîne de transmission et mettre en place son propre modèle d'éducation. Ma femme d'aujourd'hui nous raconte avec sincérité et surtout sans amertume son histoire dans notre podcast féminin marocain.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Ilham Bennani, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chbarak lalla, Ilham.
Alhamdoulilah, merci beaucoup Yasmine, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un vrai honneur pour moi de partager ce moment avec vous.
L'alertek. Alors, Lala Ilham, vous êtes, on va dire, une magicienne pour beaucoup de mamans et pour vous-même aussi, pour vos enfants. Vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi coach familial, vous avez une formation en discipline positive, vous partagez beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez une page qui s'appelle « J'éduque positivement ». Qu'est-ce qui vous a emmené vers une spécialisation de l'éducation des enfants ?
Je dirais mes propres enfants.
D'accord.
Ma propre expérience en tant que maman. En fait, je me suis intéressée à l'éducation positive en particulier, mais à l'éducation de façon générale, quand j'ai su pour ma grossesse, c'est-à-dire à l'annonce de ma grossesse, la première chose à laquelle je me suis intéressée, c'était l'éducation, et ça, on parle d'il y a plus de 6 ans maintenant.
D'accord.
Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher un petit peu, à m'intéresser, voilà, à l'éducation, quel type d'éducation je voudrais donner à mes enfants, comment répondre à leurs questions, comment ne pas avoir de tabou, comment ne pas avoir recours à tout ça.
Hachi Kamel, tbarakallah, khmem petit fait la grossesse.
Exactement le jour où j'ai su pour la grossesse, après l'euphorie, la joie, juste après...
La responsabilité.
Voilà, la responsabilité, le sens de responsabilité et puis la nature de la relation que je voudrais avoir avec mes enfants. Et le déclic, je dirais, c'était déjà ma propre enfance et puis par la suite, l'éducation en tant que maman,
c'est
mon rôle de maman.
Alors voilà, c'est comprendre qu'est-ce qui a déclenché cette envie de vouloir trouver une éducation. Parce que, en général, les gens pensent justement, quand il y a un bébé qui arrive, on pense grossesse, on pense trousseau, on pense sbour, on pense bia, on pense...
Oui, dossier de naissance.
Dossier de naissance, exactement. Après, on pense crèche. Enfin, on pense à des choses comme... On ne se projette pas dans des choses comme ça, d'éducation.
Non, en fait, moi, je suis de nature à m'intéresser aux choses... pour moi, essentielle de la vie. C'est-à-dire, pour moi, c'était la nature de la relation. En fait, je me rends compte qu'après avoir cité tout ce que vous venez de citer, c'était des choses matérielles. Donc, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéressait à l'époque. C'est vraiment essentiel. Et en même temps, j'ai toujours remis en question quelques pratiques que j'avais moi-même reçues dans mon enfance. Comme les châtiments corporels, comme les cris, les menaces. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser au type d'éducation, de manière à ce qu'il y ait une relation saine, une relation harmonieuse, une relation de confiance avec mes enfants et moi. Et j'ai trouvé réponse dans la discipline positive. Donc c'est un peu, il y a mon parcours, ma relation, c'est-à-dire mon enfance, ma propre enfance. Et puis par la suite, mon adolescence aussi, parce que j'ai commencé à creuser à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à creuser sur moi-même, sur mes blessures d'enfance, etc. Et à travailler sur ça. Et puis quand j'étais face au fait d'être maman, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, et là je me suis dit il y a quelque chose à faire dans ce domaine et surtout dans cette relation de parent ou de maman enfant.
En fait, c'est des blessures que vous voulez pas que votre enfant vive à son tour.
Voilà, exactement.
C'est ça. On a envie que nos enfants soient la meilleure version de nous-mêmes.
La meilleure version soit elle-même. Pour moi, j'ai des filles, donc qu'elles soient elles-mêmes et que cette relation que j'ai aujourd'hui, mes enfants ne m'appartiennent pas. C'est mes enfants, certes, mais ils ne sont pas ma propriété. Donc, mon rôle en tant que maman, c'est vraiment de les accompagner et de leur donner la meilleure version de la vie que je peux leur donner aujourd'hui.
Alors, justement, beaucoup de personnes, vous parlez d'une génération qui a connu ça. C'était ça, l'éducation, le rouet, le darb, l'iqab, le chikan'adi, ça ne parlait pas.
Recommandé.
Pardon ? C'était recommandé exactement. Maknesh kangoulou hukouk tifl dik saat.
Du tout. Non. En fait, c'est ce qui était d'ailleurs, si on voit tout ce qui est, toutes les émissions qui existaient à l'époque et tout, même les bouquins, on parlait de châtiment corporel, on parlait de petites fessées, ça ne fait rien, on parlait de punition, c'est ce qui était recommandé. Mais là, aujourd'hui, avec les neurosciences, ils ont remis en question toutes ces pratiques qui nuisent au développement de l'enfant.
بالحق ان ميم طون الالهام تسمع دابا دي بارون اللي كيتبعونا غيقول لك وهادو كيزيدوا فيه ها حنا ضربونا وداروا لنا وكبرنا وما وقع لنا حتى حاجه والدينا كنحماقوا عليهم وكنحترموهم
بيان سور اج لونتون سوفون
ياك
جونتون تو لي جور ميم دون مي انترفونسيون دون مي زاتيلي جونتون توجور سيرت اون اي لا الحمد لله اون ا ترافايي سور نو اون ا ترافايي سور نو بليسور ايتترا مي يا يو دي بليسور يا يو ا مانك دو كونفيانس ان سوا ا سيرتان مومون يا يو ا مانك دو ديستيم دو سوا تو سا اون فيل ايفيتي ا ترافير جوستمون سيت براتيك او سيت ميثود ايدوكاتيف
است كون بو éviter. Quelqu'un m'avait dit ça. Une maman m'avait dit ils te trouveront, ils trouveront une raison de. Ils trouveront une raison d'aller chez le psy, ils trouveront une raison d'aller.
Non, ça ne veut pas dire qu'on va, peut-être leur épargner tout ça. On va faire en sorte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que parents, quand on a une interaction avec notre enfant, on ne peut pas entrer dans son cerveau et manipuler ou changer l'interprétation qu'il aura de l'expérience. Par contre, on peut travailler sur nous pour changer la manière avec laquelle on les traite. C'est ce qui va peut-être et probablement changer leur perception et donc leur interprétation. C'est ça en fait. On peut se maîtriser, on peut se contrôler, mais pour contrôler l'enfant, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Et ce qu'on ne pourra exactement pas faire.
Walakin, il faut quand même le cadre.
Bien sûr, bien évidemment. En fait, je pense que c'est une mauvaise interprétation de la discipline positive. On pense qu'on est dans le monde des bisounours, que tout est permis, que tu peux faire tout ce que tu veux, qu'on cède à tout, qu'on gâte nos enfants, alors que c'est absolument pas ça. C'est vrai, il y a un cadre, il y a des règles qu'on établit avec l'enfant. Dans l'éducation positive, on est dans le respect de l'enfant, dans l'implication de l'enfant, dans tout ce qui est établissement des règles, du cadre,
on va essayer d'imaginer ça comme une entreprise. Au sein d'une entreprise, il y a des choses qui sont déterminées en équipe, donc avec en concertation avec tout le monde, et puis il y a des choses qui descendent qui viennent de la hiérarchie. Donc, c'est-à-dire quand vous dites en matière d'éducation positive, on décide de tout avec l'enfant, on met les règles avec l'enfant. Même quand il sera adulte, on ne va pas forcément mettre des règles avec lui. On ne va pas forcément le concerter pour les règles.
Oui, il y a justement, quand je dis on fait les règles avec les enfants, les règles de la vie en famille. Après, il y a des décisions qui sont prises par les parents, de grosses décisions. Et à ce moment-là, au moment où on prend les décisions, on informe les enfants de façon ferme et bienveillante, de façon respectueuse. C'est-à-dire, je ne vais pas venir avec des cris, avec de l'autorité verticale. Non, c'est moi qui décide, c'est moi l'adulte, c'est moi voilà ta maman, c'est moi ton père. Donc, tu n'as qu'à obéir. On n'est pas dans cette relation de verticalité, on est plutôt dans une relation d'horizontalité. Et quand il y a des grosses décisions à prendre au niveau des parents, on va juste informer les enfants de façon respectueuse, de façon ferme et bienveillante. Et dans la fermeté et la bienveillance, il y a le cadre dont l'enfant a besoin pour se sentir en sécurité.
Alors, Ilham, est-ce que parfois il vous arrive de vous dire « makrach n'rouet » ou « la makrach n'... » J'aimerais bien. Mais Hélène.
On me le dit souvent. En fait, ça ne veut pas dire que je ne crie jamais. Ça m'arrive de hausser un petit peu le ton. Et quand ça m'arrive, je répare.
D'accord.
Je dis, je suis désolée, mais c'est vrai que ce n'est pas une pratique courante. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, mon mari me dit, en fait, tu n'es pas une maman qui râle.
Ouais.
Je lui dis, heureusement, après tout ce que je fais,
heureusement,
si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps zen. Il y a des moments, en fait, quand ça m'arrive, et c'est aussi une pratique qu'on développe, c'est qu'on arrive à s'écouter, à s'auto-maîtriser, à s'écouter, à se maîtriser, et à se dire, voilà, je ne me sens pas bien, et je le dis clairement. Je dis à ma fille, s'il te plaît, maintenant, je ne peux pas te parler avec respect, je ne peux pas parler, je suis très en colère. J'ai besoin d'un moment pour moi. Et je ferme la porte et je reste dans ma chambre toute seule le temps que je me calme. Et après, on pourra reprendre. Tout est dans la manière de communiquer avec l'enfant.
Mais Khadi Matelen, il y a qu'un tour. Si vous êtes dehors, si vous êtes dehors, vous avez quelque chose, ou si vous dites, attends ton tour, ou là, il y a plusieurs cas de figure. À ce moment-là, comment on se calme quand on est dehors?
Alors, quand on est dehors, justement, comme on se calme de façon générale, on arrive à reconnaître quand la colère est en train de monter. On a besoin physiologiquement d'un petit moment pour se calmer, pour que notre cerveau puisse avoir accès encore une fois à son empathie, sa logique, sa façon de réfléchir, etc. La prise de décision et tout ça. Donc, je prends un tout petit temps pour me calmer. Ce qui est important, c'est de ne pas être impacté par le regard des autres. Quand on est à l'extérieur, on est dans une bulle avec l'enfant et on considère ce qu'il fait. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on développe avec la discipline positive. C'est notre regard sur le comportement de l'enfant qui change. C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne vais pas être impactée par le regard des autres parce que mon enfant est en train de se rouler par terre. Je sais que ça fait partie de son stade de développement. Je sais qu'il est en train de s'exprimer, d'exprimer une émotion, un besoin. À ce moment-là, je prends sur moi le temps de me calmer. Ce temps de pause, je peux l'appliquer n'importe où, dans la voiture, dans la rue, dans les magasins, n'importe où. Je prends ce temps de pause pour me calmer, pour que je puisse l'accompagner dans sa crise. Mais en fait, c'est beaucoup de travail. Mais c'est vraiment beaucoup de travail sur soi.
J'imagine, ouais.
Oui, c'est beaucoup de travail. On se fait aider par tout ce qui est yoga aussi, méditation. Donc, on prend soin de nous. Ça ne veut pas dire que c'est que l'enfant. Enfin, que l'enfant le centre d'intérêt. Mais
par exemple, je vous en parle avec ma casquette de maman. عندي جي دو في كل وحده كما الي وحده مثلا ça marche bien avec elle la discussion etc et la deuxième ne ça marche pas en fait j'ai l'impression que rien ne marche
pense si je peux me permettre
bien sûr
Yasmine, ça peut être son mode de fonctionnement parce qu'il y a des enfants, j'ai la même chose à la maison. Il y a en tant que maman aussi, je vais te parler en tant que maman et alors j'ai la grande qui dès que je lui dis viens je t'explique. Elle est là en train de m'écouter.
Exactement.
Donc elle est auditive. Elle fonctionne avec l'audition. Elle est là en train d'écouter. Elle adore la communication. Chez la petite, elle est visuelle. Donc, elle adore tout ce qui est chanter, danser. Dis maman encore. Dès qu'elle me voit danser, maman encore. Elle adore tout ce qui est.
Anna Hadi, c'est la même chose. Exactement.
Elle a besoin d'explications
visuelles,
tangibles et qu'elle peut voir avec les yeux.
Donc c'est une Non, je rigole.
Pas forcément,
exactement. Lala Ilham, justement, j'aimerais bien que les personnes qui nous écoutent maintenant puissent s'identifier encore plus à ce que vous avez dit par rapport à l'enfance. Nous, on fait partie de cette génération. L'éducation, la punition, c'est des croyances, comme on dit, absolument.
C'est plutôt l'amour qui vient de Jinnah.
Absolument.
C'est l'amour inconditionnel.
Alors, comment une personne peut savoir qu'elle a ces blessures qui remontent à l'enfance et qu'elle peut les guérir? Les signes de ces blessures?
Sa propre image. En fait, c'est sa façon de se comporter avec ses enfants. Déjà, si elle voit avec son bébé qu'elle n'arrive pas à supporter ses pleurs, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut creuser là-dedans pour voir est-ce qu'elle-même, elle n'a pas été écoutée pendant son enfance, pendant la première phase de son enfance. Si elle se voit justement taper, crier, violenter son enfant et se dit « je ne sais pas pourquoi ça m'arrive alors que je me suis juré ne jamais le faire », si elle voit qu'il y a des blocages, qu'elle n'arrive pas à... qu'il y a un burn-out peut-être, qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle n'arrive pas à accompagner ses enfants, qu'elle leur transmet la peur, des croyances erronées, qu'elle n'arrive pas à les accompagner de façon sereine, de façon confiante, c'est qu'il y a quelque chose à... par rapport à sa relation avec ses enfants et puis dans sa vie de façon générale. Si elle voit qu'elle a des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des peurs inexpliquées, qu'elle dort mal, qu'elle est mal, tout simplement.
Vous avez vécu tout ça? Vous avez été mal à un moment de votre vie?
Oui, à partir de l'âge de 14 ans. Et c'est là, justement, où j'ai commencé intuitivement à faire ma propre thérapie avec l'écriture.
Incroyable.
L'écriture de mon histoire, des faits marquants de ma vie et les actes traumatisants de mon enfance.
C'est vrai. Ce qui est incroyable, c'est que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça, c'est quand on parle avec ses parents, une fois adultes, de ces moments-là, ils ne les ont pas vécus de la même manière que nous.
En fait, ils ne les ont pas vécues, parce que parfois on oublie. ils oublient. Ouais. Parce qu'au moment où ça vient, c'est un moment, pour, même pour eux, ils étaient, comment on dit, ils avaient pété les plombs à ce moment-là. Donc, ils n'arrivaient pas. En fait, c'est des moments où ils ne vont pas forcément se rappeler, parce que c'est que le cerveau reptilien qui
ils sont presque eux-mêmes choqués de ce qu'ils ont pu dire.
Exactement, exactement. Ce qu'on peut faire, c'est même pas les blâmer ou bien tu m'as fait les accuser.
Exactement.
C'est juste, je me rappelle de ce jour, ça va faire du bien à tout le monde, ce jour où j'ai subi ça, et je te pardonne et je t'aime. Et merci, ça m'a forgé, par exemple, ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a permis de me protéger et réétablir la relation avec eux. Mm. Ça dépend encore une fois de la perception et donc de l'interprétation de chaque personne. Ça, ce qu'on appelle la logique interne, c'est-à-dire c'est privé à chaque personne. Comment elle va interpréter la relation et quelles conclusions et quelles décisions elle va prendre de telle expérience. Voilà. Mm. Donc ça va dépendre de... Oui, on peut devenir trop sensible, on peut devenir très empathique, on peut vouloir jamais faire de mal aux autres, comme on peut devenir plutôt agressive. Et ça aussi, c'est une traduction à un mal-être.
Mm-hmm. Absolument.
Quand on voit qu'on est dans l'agressivité, on est envieuse, on a envie de faire du mal aux autres, on ressent de la colère, on ressent de... Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler au fond de soi ?
Les personnes justement qui sont comme ça, envieuses, on a envie de faire du mal aux autres, tout ça, elles s'en rendent compte ? Elles le réalisent ?
Il faut un déclic. Peut-être pas. Oui. Il faut un déclic, il faut avoir déjà l'humilité et la maturité de dire oui, je ne me sens pas bien, je vais me faire aider. J'ai besoin de me faire aider. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, même les personnes qui nous disent aujourd'hui, oui, moi aussi j'ai subi de la violence dans mon enfance et ça ne fait pas de moi quelqu'un de complexé ou de qui souffre, c'est juste des personnes qui n'arrivent pas encore à se remettre en question. Peut-être qu'il n'y a pas cette humilité, peut-être matière d'âge, comme on dit, tout simplement. Ou elles n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Elles ne veulent pas. En fait, elles refusent peut-être. Ouais. Elles sont dans le déni.
Peut-être aussi le déni parce que c'est finalement voir ses parents d'une autre manière, avant de pouvoir les voir comme des êtres humains normaux qui n'ont fait que ce qu'ils savaient faire à ce moment-là, que ce qu'ils n'ont pu transmettre à ce moment-là.
Parce que, c'est possible aussi.
Yeah.
Oui.
Parce que
oui,
je pense qu'on ne peut pas passer rapidement de la douleur à la compréhension et au pardon.
Bien sûr.
Qui est donc l'étape d'y presque en vouloir à la personne, régler
exactement.
Ça et aide à dépasser.
Bien sûr, l'acceptation, régler ça, dépasser et pardonner, se faire pardonner.
Exactement. Oui. En même temps, est-ce que vous ne voyez pas aussi, où là il n'y a pas le risque ses parents qui ont vécu cette situation-là, de se retrouver trop laxistes avec leurs enfants à force de, justement d'avoir été brimé petit, l'enfant roi.
J'en rencontre justement dans mes interventions, effectivement, des parents qui ont subi de la violence, ils se disent « Moi, jamais, je ne peux jamais dire non à mon enfant. Mm. Je ne peux que dire oui. » Parce qu'effectivement, soit il a été privé toute sa vie, par exemple, de choses qu'il aime bien, soit il a subi de la violence et donc il ne veut pas reproduire ça. D'où l'importance de faire la séparation avec le passé, de travailler sur ça, pour pouvoir accompagner ses enfants de façon confiante.
C'est ça, absolument.
Et c'était ça, pour briser justement le schéma et ne pas le reproduire avec ses enfants.
Exactement, exactement, c'est important. Vous êtes maintenant aujourd'hui réconciliée avec vous-même ?
Oui.
Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Alors, est-ce qu'il y a eu quand même des moments difficiles, malgré tout ?
Alors oui, il y a un événement que j'ai pas cité et qui a déclenché tout ça. En réalité, c'est la naissance de ma cadette. C'est la naissance de Dina qui a 3 ans aujourd'hui, qui a réveillé toutes ses blessures, qui a réveillé toutes ses peurs, qui a réveillé toutes ses angoisses. En fait, elle est née avec une malformation pulmonaire génétique, dont on ignorait l'existence pendant toute la grossesse et qui a nécessité plusieurs mois d'hospitalisation, réanimation néonatologique. Donc pendant plusieurs mois, elle n'arrivait pas à respirer. Elle était pendant plusieurs semaines intubée, ventilée. Et puis par la suite, des allers-retours, quand je dis des allers-retours, du lundi au dimanche, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour pour pouvoir l'assister, être avec elle, l'accompagner, lui transmettre de l'amour, de l'attention, pendant une période où j'étais moi-même épuisée. Donc ça aussi, c'était je pense...
Avec un premier enfant aussi.
Vie, hein. Non, avec un premier enfant, exactement. Avec un premier enfant qui était tout le temps en crise parce que c'était pas normal ce qu'elle vivait à ce moment-là. Elle nous a accompagnés pendant toute la période, donc vu que ça fait partie de son histoire aussi. Donc elle était avec nous pendant toute la période d'hospitalisation. Elle voyait des scènes pour elle-même, voilà, traumatisantes peut-être.
Absolument.
Ouais, c'était une période assez difficile dans notre vie.
Et comment elle va maintenant, la petite?
Elle va très bien.
Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Les poumons sont toujours fragiles. Ouais. Elle est toujours encombrée. Elle est toujours sous kiné à domicile. J'ai appris à lui faire la kiné.
Okay.
Elle a des soins au quotidien. Mais c'est quelqu'un qui croque la vie. C'est quelqu'un qui, c'est la joie. C'est la définition de la joie. Alhamdoulilah. Et ça aussi, en fait, c'est ça vraiment la vraie leçon de vie que j'ai eue. C'est la naissance de Tina.
Et c'est ça, en fait, les filles khalik, comme on dit, tout ce qui a pu être compliqué. Les angoisses. Oui. Mais c'est normal, oui, en même temps. Je veux dire, on met au monde un bébé qui a besoin d'aide.
Oui.
C'est normal,
exactement,
d'être angoissée en tant que mère.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi, en fait, ce que j'avais découvert à travers Dina, c'est la peur de la mort.
Oui, oui, oui.
Ça, on l'a tous. Mm. Mais comment on a été en contact avec, je dirais, la mort depuis la petite enfance.
Mm.
Comment on nous a expliqué la mort. Comment on nous a fait vivre les moments de deuil, etc. Ça a réveillé cette naissance, a réveillé l'angoisse de la mort chez moi. Et c'est là où j'ai creusé pour travailler justement sur sur cet aspect-là et voilà, approcher la mort de façon différente.
L'angoisse de la perdre, c'est ça?
Oui, de la perte.
De la
perte,
c'est ça. Exactement.
Oui, c'était ça. C'était exactement ça.
Et là, ça va mieux, vous?
Oui, très bien.
Et elle va bien, alhamdoulilah. Mais vous, est-ce que vous êtes plus sereine? Est-ce que ça va mieux? Parce que voilà, se retrouver face à la maladie d'un enfant, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer.
C'est très compliqué, mais c'est aussi, encore une fois, l'interprétation qu'on donne à chaque chose.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, avant, c'était « Oh, j'ai peur de la perdre, elle ne va pas grandir ». C'était aussi ce qu'on entendait dans les structures hospitalières, c'était ça. Elle ne va pas pouvoir grandir, elle ne va pas pouvoir parler, elle ne va pas pouvoir écouter.
Mmh.
Ça n'aidait pas trop. Mais aujourd'hui, à la voir grandir, à la voir se développer convenablement, à la voir une lumière aujourd'hui, je me dis… Alhamdoulilah, c'est la foi. L'amour inconditionnel et croire en la vie de façon générale.
Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Ilham. Merci infiniment pour cette discussion à cœur ouvert.
Merci à vous, Yasmine.
Merci infiniment, c'était un plaisir.
Merci, merci beaucoup.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.